Bienvenue au Sermon d'Hippocrate, le podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé, mais ne se trouvent pas en pharmacie. Que ce soit l'alimentation, le sommeil, la méditation ou l'activité physique, tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. Bienvenue au Sermon d'Hippocrate, aujourd'hui j'accueille Edouard Courault, qui est notre premier invité retour. Merci d'être revenu Edouard, visiblement c'était pas si horrible la dernière fois.
C'est bien.
Alors je rappelle que donc t'es enseignant et consultant en micronutrition et en biochimie. Je t'ai contacté parce que je voulais qu'on parle de quelques sujets, mais on va reparler un petit peu de toi parce que c'est peut-être aussi le premier épisode que les gens écoutent, donc juste pour te redécouvrir, est-ce que tu peux me donner un petit peu ton parcours s'il te plaît?
Oui, tout à fait, donc encore une fois merci et bonjour à tout le monde. Donc, je suis pharmacien de base, hein, donc j'ai fait mes études en faculté de pharmacie. J'ai exercé donc durant 5 ans en pharmacie d'officine jusqu'à me rendre compte que finalement ce genre de médecine correspondait absolument pas, à savoir que tout était traité que par du médicament et on n'allait pas chercher plus loin. Donc jusqu'au jour où j'ai découvert un peu la micronutrition et je me suis très très vite passionné pour ça et je me suis donc formé dans ce domaine beaucoup et donc désormais en fait c'est mes connaissances de base apprises en faculté de pharmacie, donc mes connaissances scientifiques qui me servent aujourd'hui donc à faire donc du conseil en micronutrition, mais également beaucoup aussi enseigner donc en biochimie, en micronutrition, enfin voilà, en biochimie, mais avec un regard micronutritionnel, voilà, pour la santé. Donc voilà un peu ma pratique d'aujourd'hui.
On avait fait donc un premier épisode ensemble, où on avait en fait parlé de pas mal de mythes autour de la micronutrition. C'était un peu pour moi l'occasion de refaire quelque chose dans le même esprit, mais vraiment en se focalisant sur les micronutriments. Donc là, on est vraiment dans ton cœur de sujet. Et parce que c'est des choses que j'ai pas mal vu revenir récemment, et où moi, dans ma propre pratique du coup professionnelle de coaching santé, on me pose régulièrement ces questions, je suis apte à y répondre, mais j'aurais bien voulu du coup que, enfin, toi tu arrives avec, enfin, tu as une compétence supplémentaire qui est bien au-delà de la mienne, ouais. Et du coup voilà, j'aurais bien voulu que tu puisses nous illuminer un petit peu là-dessus. On s'est fait une petite feuille de route pour aujourd'hui. Les thèmes qu'on devrait aborder, et peut-être qu'on en rajoutera d'autres dans la foulée, parce que faut jamais rien s'exclure. Mais je voulais aujourd'hui qu'on parle ensemble de plusieurs choses. Donc plusieurs micronutriments qui sont importants et où j'ai l'impression qu'il y a un peu trop d'informations. Donc c'est le potassium et le sodium et le potassium. Donc en gros le sel. Également qu'on parle du fer, donc le fer hémique et le fer non hémique, parce que je vois un peu tout et n'importe quoi là-dessus, ainsi que d'autres micronutriments comme le calcium, le zinc, le magnésium, également le collagène, et dont on parle énormément en ce moment, puisque c'est la vitamine D. Souvent associé à, en gros, le système immunitaire. Puisque aujourd'hui on est en pleine crise sanitaire, forcément, ça parle beaucoup de vitamine D pour renforcer le système immunitaire. Donc, on va commencer peut-être avec celui-là, d'ailleurs, tiens, tant qu'à faire. Hein? Ce qu'on s'était fixé comme un peu méthode, c'est que j'allais te présenter ce que je vois comme connaissance grand public sur tel ou tel sujet, et tu viendras du coup compléter ou contredire cette vision. Ouais. La vitamine D, c'est la fameuse vitamine du soleil, cette vitamine qui est absolument essentielle pour tirer en fait tous les bons bénéfices de l'exposition au soleil. Par contre, c'est pas que ça.
Effectivement, donc la vitamine D, comme tu l'as dit, c'est effectivement la vitamine du soleil, hein, qui provient principalement en fait qui est fabriquée en fait par l'organisme par l'exposition de la peau ultraviolet. Donc, par définition, en fait, le simple fait d'appeler vitamine, c'est déjà une erreur en soi, parce qu'une vitamine, par définition, c'est quelque chose qu'on ne sait pas fabriquer par l'organisme. Or là, on sait le faire par le biais d'exposition au soleil. Donc en fait, c'est pas vraiment une vitamine. Déjà, la vitamine D, on l'appelle comme ça, mais c'est pas une vitamine, c'est plutôt une hormone en fait, ou même un précurseur d'hormone. Et qui dit hormone dit donc qu'il y a des rôles multiples et qui ne se limite pas que au rôle qui est souvent le plus connu, qui est celui sur la calcification des os, et qui est certes bien sûr valable, il faut pas l'oublier, mais ça se limite bien évidemment pas qu'à ça. Et donc ça va agir en fait sur toute une pléthore d'effets, et on montre, enfin les recherches montrent effectivement que quasiment toutes les cellules de l'organisme possède un récepteur à la vitamine D. Donc, c'est dire finalement que la vitamine D peut intervenir sur tout plein d'organes et tout plein de fonctions physiologiques majeures, donc l'immunité, la force musculaire, que sais-je encore. Parce qu'on sait, par exemple, que la vitamine D, elle peut réguler jusqu'à... c'est environ... Il y a plus de 200 gènes, on va dire, qui sont régulés par la vitamine D. Donc, finalement, les répercussions d'un déficit peuvent être vraiment majeures.
Alors, il y a un truc... que je vois souvent dans les conversations sur la vitamine D, c'est le fait que certaines populations sont, selon où elles vivent, peuvent être avoir de plus gros besoins. C'est-à-dire que par rapport à l'exposition au soleil, quelqu'un qui a une peau très claire va généralement être plus sensible au soleil, donc va pouvoir mieux s'en sortir dans les hémisphères nord, tout simplement parce que aura la capacité en fait d'absorber en fait plus de rayons, alors que quelqu'un qui a une peau plus foncée sera peut-être en carence en hiver, justement, où il y a beaucoup moins d'exposition au soleil, alors que quelqu'un qui a une peau très claire, qui va dans plutôt dans les hémisphères plus proches de l'équateur, enfin qui va plus proche de... pas hémisphère sud, je suis débile, qui va plus proche de l'équateur, où il y aura plus d'exposition au soleil, va du coup avoir potentiellement très facilement des coups de soleil, là où quelqu'un qui a une peau plus sombre, du coup, sera beaucoup plus à l'aise, en fait, dans son absorption, c'est ça, ou son exposition, en fait. Tu peux m'aider à démystifier un peu ça, en fait, c'est, en gros, selon la teinte de peau, c'est ça, il y a une différence dans la réception, déjà, des rayons solaires, et donc c'est un effet du coup sur la vitamine D derrière.
Ouais, exactement, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la principale source de vitamine D, elle est consécutive à l'exposition de la peau aux ultraviolets. Ouais. Donc pour ça, il faut qu'il y ait donc exposition, et plus la peau va être foncée, en effet, plus ça va filtrer donc les ultraviolets, et moins la synthèse donc de vitamine D forcément sera qui en découlera sera moins elle sera importante. Donc c'est pour ça que les sujets donc à peau foncée, donc typiquement à peau noire, ont plus de difficultés, par exemple à nos latitudes, de fabriquer de la vitamine D. Donc c'est une catégorie de population qui est notamment plus à risque. Par contre, à leur latitude en général, enfin dans les pays donc en général donc d'Afrique, hein, donc d'où ils peuvent être originaires, l'exposition au soleil est plus forte, donc ça vient compenser, on va dire partiellement, cette peau qui est foncée. Alors qu'effectivement, quand on est à des latitudes plus au nord, hein, donc dans nos pays donc d'Europe par exemple, donc notre peau, on va dire, est adaptée à l'exposition solaire, ce qui fait qu'on voilà, tout est une question d'adaptation finalement entre la force du soleil et la couleur de la peau. Mais bah, effectivement, il y a vraiment un lien entre couleur de la peau et réception des ultraviolets et donc derrière synthèse de vitamine D.
Oui, de toute façon, on le voit assez facilement dans le monde, hein, les populations qui sont issues de régions proches de l'équateur ont tendance à avoir la peau plus foncée, qu'elle soit africaine, sud-américaine ou asiatique, et ceux qui sont dans des latitudes comme l'Europe, comme le nord de l'Asie, par exemple, ou en Amérique du Nord, ils ont généralement des peaux beaucoup plus claires, et on le voit dans toutes les ethnies, donc comme quoi il y a une corrélation directe. Mais par contre, aujourd'hui, on a des situations où les populations sont beaucoup plus mélangées, c'est-à-dire que des blancs-becs comme moi peuvent se retrouver à vivre en Guinée équatoriale, au même titre que quelqu'un qui serait originaire, par exemple, de Centrafrique, pourrait largement se retrouver en train de vivre dans le Yukon au Canada, et c'est sûr que là, du coup, c'est pas du tout les mêmes rapports au soleil.
Après, il y a le problème aussi inverse, où quand on a la peau claire et qu'on habite justement dans des pays... à forte exposition au soleil, là, bon, le problème est inverse, c'est plutôt le problème par rapport au cancer de la peau, par exemple.
Mmh. Oui, parce que du coup, on est plus vulnérable sur ce niveau d'exposition, puisqu'on n'a pas... on reçoit trop, en fait, c'est ça ?
C'est ça, on filtre moins, du coup, les UV, et donc les UV ont en effet potentiellement cancérigènes, bien sûr. Ouais.
Voilà, ça, c'était, je voulais juste du coup qu'on ressente un peu le truc, parce que c'est vrai que je pense que la perception, enfin le rapport de tout le monde à l'exposition au soleil est déjà pas le même. Du coup, forcément, la vitamine D peut être un plus gros sujet pour certains que pour d'autres selon où ils vivent. Donc tu vois, par exemple, quelqu'un qui a une peau très claire dans l'hémisphère nord aura peut-être plus de facilité en hiver à avoir l'exposition au soleil nécessaire pour maintenir ses niveaux de vitamine D que quelqu'un qui a la peau beaucoup plus sombre.
Oui, alors oui, cela dit, bon, même si c'est juste effectivement en théorie, il faut quand même relativiser et se rappeler que malgré tout, quelle que soit la couleur de peau, en général, quand à la saison hivernale, on est tous casaniers, et surtout dans cette période un peu particulière où on est déjà confinés d'une part. D'autre part, quand bien même on sort, on est souvent mitouflé, donc quelque part, au final, quelle que soit la teinte de la peau, on se retrouve de toute façon tous carence de vitamine D, ça c'est affolant. Dans les prises de sang, on le voit de façon très nette.
D'autant plus dans notre mode de vie moderne où on passe quand même beaucoup beaucoup de temps en intérieur, on est nettement moins en extérieur. Donc c'est vrai que les fenêtres d'exposition en fait sont faibles et comme tu le dis, en plus on a tendance à se recouvrir. Malheureusement, on n'a pas tous un solarium chez soi. Donc sur le rôle du coup de la vitamine D dans le système immunitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Pourquoi est-ce que c'est autant associé en fait à la force du système immunitaire?
Parce que comme je l'ai dit, la vitamine D, donc elle peut agir sur plein de systèmes, donc notamment le système immunitaire. Donc effectivement, encore une fois, dans les recherches, on montre que notamment les maladies auto-immunes sont en général très nettement améliorées, en tout cas en prévention, beaucoup par un statut en vitamine D correct. Parce que du coup, la vitamine D va venir moduler, par exemple, le système immunitaire, donc adaptatif, donc voilà. Et en venant donc diminuer potentiellement la probabilité donc de développer des maladies auto-immunes. À l'inverse, la vitamine D vient stimuler le système immunitaire donc inné en stimulant la production de certaines molécules antimicrobiennes. Donc ça a vraiment un rôle dans
D'accord.
l'immunité, voilà, de modulateur pour pas trop qu'il soit réactif et donc pas trop faire des maladies auto-immunes. Mais à l'inverse, ça vient le stimuler pour justement éviter de faire des infections.
C'est intéressant. Enfin, ce que j'ai pas mal vu en fait sur 2020, parce que bon, la vitamine D, j'avais l'impression qu'avant on n'en parlait pas tant que ça. Maintenant, avec du coup la pandémie de coronavirus, j'ai vu à plusieurs endroits, ce qui m'a un peu presque étonné, en fait, des gens qui voulaient se faire des cures de vitamine D, dans l'espoir que ça les protège. Après, je sais pas quelle est la véracité de ça. En tout cas, ça peut, enfin, c'est intéressant d'avoir des bons niveaux de vitamine D, comme tu l'expliques, parce que effectivement, ça permet de renforcer le système immunitaire. Donc, ça reste quand même pertinent.
Effectivement, et puis par rapport au coronavirus, alors il y a certaines études, alors moi je ne suis pas fan des études parce que bon, il faut voir vraiment comment elles sont menées et tout ça, mais effectivement, a priori, ça semble quand même corroborer avec ce qui est connu avec la vitamine D et par rapport à la protection donc contre certains virus, notamment le coronavirus. Donc c'est une vitamine, je pense, qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur et à juste titre, parce que effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'on s'y intéressait pas forcément à sa juste valeur auparavant.
Mais peut-être d'ailleurs par ce que tu as expliqué, le fait que ce soit pas vraiment une vitamine, en fait. C'est peut-être aussi pour ça qu'on regarde ça un peu différemment.
Probablement, effectivement, le fait de comprendre que finalement c'est plus une hormone, je pense du coup, on prend plus la valeur de la chose. Et le fait aussi qu'on se rende compte que bah, dans l'alimentation, il y en a très peu finalement de vitamine D. Donc voilà, ça vient vraiment renforcer l'importance, je pense, bah, encore une fois, de cette vitamine qu'on ne devrait pas appeler comme ça, quoi.
Et donc une bonne manière de maintenir ces taux de vitamine D dans des niveaux intéressants, c'est l'exposition au soleil. J'invite tout le monde à en profiter, à s'exposer au maximum lorsque c'est possible, toujours en faisant attention à pas non plus se cramer. Tu as expliqué que ça avait un rôle dans la fixation du calcium. Et ça tombe bien, ça faisait partie de ceux dont je voulais parler. Est-ce qu'on peut du coup, enfin, moi je vais te dire ce que j'ai du calcium. Alors déjà forcément j'ai en tête leur rabâchage médiatique des produits laitiers source de calcium, comme quoi le calcium c'est pour fabriquer les os. Mais en fait il y a beaucoup beaucoup d'autres fonctions du calcium. Déjà il est présent dans les os, ok. Mais c'est loin d'être le seul. Il y a plein d'autres choses dans les os, mais ensuite c'est pas, enfin, les produits laitiers sont quand même finalement assez controversés lorsqu'on parle de calcium, parce que si j'ai bien compris, ils sont des sources de calcium, mais ils peuvent aussi engendrer de l'ostéoporose. Enfin, j'avais déjà lu ça. Est-ce que tu peux, enfin, c'est un gros dossier, mais enfin, est-ce qu'on peut démystifier un peu tout ça?
Oui, alors effectivement, c'est un sujet vaste, hein, parce que ça peut effectivement dériver sur les produits laitiers. Alors, effectivement, les produits laitiers contiennent du calcium, ça c'est évident. Après, de là à en préconiser trois par jour, ça c'est encore une autre histoire. Moi, je n'approuve pas du tout forcément cette recommandation. Après, le calcium qu'il y a dans les produits laitiers, c'est pas forcément la meilleure source de calcium dans la mesure où il peut être associé à pas mal d'autres choses, notamment du phosphore. Et voilà, et le phosphore et le calcium sont deux entités qui sont un peu antagonistes, on va dire, et qui peuvent en plus se complexer pour faire des précipités. Donc c'est peut-être pas forcément judicieux. Après, voilà, le calcium, il y en a dans plein plein d'autres aliments, hein, donc dans les légumes notamment. Et encore une fois, faut pas oublier que le calcium, c'est une chose, mais pour bien absorber son calcium, il faut avoir encore un statut en vitamine D qui soit correct. Donc, on en revient au problème de la vitamine D. Donc, ça sert à rien d'apporter pléthore de calcium si on n'a pas un statut en vitamine D qui est adéquat. Et comme tu l'as très justement dit également, bah, le calcium, il y en a dans l'os, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est pas que ça qui compte. C'est pas en ayant un statut en calcique qui soit correct qu'on va prévenir forcément l'ostéoporose. Il y a tout un problème de fond sous-jacent qu'il faut régler, qui est bien plus important, voilà, que simplement le problème du calcium.
Enfin, la manière dont j'essaie de quand je dois expliquer ce qui va vachement jouer sur la densité osseuse, et corrige-moi si je me trompe, mais enfin, moi je le fais de manière très simple parce que j'ai pas la prétention d'aller plus loin que ça. C'est que pour moi, l'os en fait, c'est une matrice de protéines avec des minéraux, c'est-à-dire dont effectivement du calcium, mais on y trouve également beaucoup d'autres minéraux. Donc en fait, c'est juste une petite part de l'édifice, mais si on n'a pas cette base de protéines, par exemple, c'est très difficile en fait d'avoir une bonne santé osseuse.
Oui, exactement. Alors, c'est bien que tu rappelles ça. En fait, pour visualiser l'os, c'est un peu, alors, tu as fait une belle image. Et moi, je compléterai en disant que l'os, c'est un peu comme du béton armé, où en fait, l'armature métallique du béton armé, bah, c'est les protéines dont tu parlais, notamment du collagène. D'ailleurs, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Et sur cette trame, justement, sur ce maillage de protéines, viennent se coller, bah, donc, du coup, là, c'est le béton, viennent se coller des minéraux, dont le calcium, en fait, qui n'est pas sous forme de calcium en tant que tel, hein, qui est sous forme de ce qu'on appelle l'hydroxyapatite. Voilà. Un bon moyen donc de renforcer les os, ça passe aussi beaucoup par, bah, la stimulation des os, c'est-à-dire par l'activité physique, par un effet qu'on appelle piézoélectrique, qui en fait
T'as
par
redit, j'ai pas bien entendu. Ça s'appelle quoi?
l'effet piézoélectrique.
D'accord.
Voilà. Mais en fait, c'est un effet de lorsque tu stimules l'os d'un point de vue mécanique, ça vient renforcer en fait comment dire, la minéralisation finalement de l'os. Donc, l'un des meilleurs moyens de renforcer ces os, ça passe par l'activité, bien sûr, physique, donc en stimulant ces os. Donc, bien sûr, il faut avoir aussi tous les micronutriments derrière, on est d'accord.
Il y a un sujet sur, enfin, c'est quelque chose que j'avais observé, donc du coup avec mes clients, avec lesquels on faisait un accompagnement alimentaire, ou du coup des gens qui changeaient en fait leur alimentation, et je l'ai plus vu chez les femmes que chez les hommes, et quelqu'un m'a dit que c'était, enfin, il y avait peut-être des raisons derrière ça dans les pratiques usuelles. C'est lorsque ces personnes changeaient d'alimentation et se retrouvaient du coup à manger donc beaucoup moins de sucre et du coup se tournaient vers une alimentation plus salée, le taux de sodium en fait augmentait énormément dans l'alimentation, là où potentiellement avant ils avaient des carences. Et donc tout d'un coup, alors qu'ils étaient en train de perdre du poids, ils étaient aussi en train de gagner en densité osseuse, et donc en fait leur poids stagnait. Et alors ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que potentiellement, c'était l'idée de dire qu'en fait, l'augmentation de la densité osseuse était finalement très très liée à leur consommation de sel. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'ai trouvé ça intéressant, surtout dans les alimentations type cétogène et très très faible en glucides, où finalement les gens se retrouvent à manger beaucoup plus de sel que d'habitude. Et ça a tout pléthore d'impact. Et dans ces débuts de transition, ils se retrouvaient là où souvent on voit des pertes de poids un peu importantes. En fait, ils se retrouvaient à stagner. J'avais entendu donc un médecin expliquer que ça pouvait être lié au fait que ils avaient un apport de sodium qui était beaucoup plus élevé qu'avant. Et en fait, du coup, ils redéveloppaient de la densité osseuse. Et l'os, mine de rien, ça pèse. Et que donc ça pouvait faire en sorte qu'au début, leur poids ne bougeait pas du tout.
Ouais, alors j'ai pas trop de connaissances à ce niveau-là. Je suis un peu sceptique par rapport à ça, puisque le sodium, à ma connaissance, il n'entre pas normalement dans la composition de l'os, ou du moins très très peu. En tout cas, j'ai pas cette connaissance. Normalement, c'est les minéraux principaux de l'os, c'est calcium, magnésium, un petit peu zinc. Normalement, le sodium n'intervient pas trop. D'autant plus que le sodium, maintenant que tu m'en parles, normalement, il est finement régulé par un système hormonal qui est celui de l'aldostérone.
Ouais.
Donc, normalement, les taux sanguins ne sont pas censés bouger énormément. Donc, je sais pas, je suis un petit peu sceptique par rapport à ça. Faut voir après l'alimentation, quand ils changent leur alimentation, faut voir après ce qu'ils prennent.
Bah, t'as aussi un apport en protéines qui augmente, attention, hein. Donc, en fait, l'idée, c'est que dans cette démarche-là, quelqu'un avait souligné le sodium, c'est pour ça justement que je voulais t'en parler. Mais oui, effectivement, tu changes aussi tes macronutriments, il y a quand même de grosses transitions alimentaires, mais j'avais trouvé intéressant cette idée de dire que dans ces alimentations, en fait, ils augmentent énormément leur densité osseuse, souvent parce qu'ils arrivent de situations plutôt de carence, en fait, ou même de situations de début d'ostéoporose et autres afflictions en tout genre, mais cette transition alimentaire fait qu'en fait, que ce soit lié au sodium ou pas, d'ailleurs, c'est même pas le sujet, fait qu'en fait, ils ont une augmentation de leur densité osseuse qui est importante et en fait, qui vient limite contrebalancer leur perte de poids, donc ils ont l'impression de stagner. Par contre, si tu mesures leur tour de taille, tu vois qu'ils ont perdu 1 cm, alors qu'ils n'ont pas bougé d'un gramme sur la balance, tu vois.
D'accord, oui, effectivement, ce serait intéressant de faire ce qu'on appelle une ostéodensitométrie pour voir effectivement si la densité osseuse est bien avérée. Après, ça peut s'expliquer par justement l'augmentation de l'alimentation finalement plus riche en micronutriments et plus complète, qui fait que ça vient lutter contre l'ostéoporose donc état dans lequel ils étaient peut-être avant ce changement alimentaire, effectivement, peut-être. Après, ce qui est important, c'est surtout le rapport masse-maigre, masse-grasse. Donc, c'est surtout ça qui importe.
Alors, je sais pas si tu pourrais peut-être éclaircir un peu ce sujet, mais j'avais vu dans une présentation, je mettrai les sources d'ailleurs pour ça, la présentation en question, de méta-analyse sur la consommation de sodium, je sursimplifie, hein, en gros, l'idée c'était qu'ils avaient observé sur le taux de mortalité à différentes échelles de consommation de sodium dans l'alimentation. Et donc ils trouvaient que le taux de mortalité était plus élevé à 2 grammes quotidiens que à 5 et même 10 grammes. C'est-à-dire qu'en fait, la carence en sodium a l'air d'avoir un effet plus néfaste sur la santé qu'une surconsommation. C'est-à-dire qu'il fallait dépasser, je crois, les 10 grammes pour arriver à un risque de mortalité aussi élevé en fait à 2 grammes, qui sont d'ailleurs dans beaucoup de pays les recommandations. On recommande 2 grammes.
Oui, alors après, encore une fois, je suis sceptique par rapport à ça, parce que dans la mesure où en fait 2 grammes de sodium par jour, je ne sais pas comment ils réussissent à faire que 2 grammes par jour, dans la mesure où le sodium, il y en a absolument partout et que... Je pense pas réellement que ce soit possible de faire que 2 grammes de sodium par jour. Il suffit de regarder, il y en a partout, le sodium. Mmh. Donc franchement, c'est difficile honnêtement de descendre. Je crois que le chiffre était fixé. Je crois que déjà pour descendre en dessous de 6 grammes par jour de sodium, ça c'est vraiment quasiment mission impossible. Il y en a dans le pain, il y en a dans les fromages, il y en a dans les viandes, il y en a... Bon, même déjà un peu naturellement dans les fruits et légumes, même si c'est plutôt du potassium qu'il y a plus que du sodium.
Ouais.
Mais vraiment, il y en a partout. Donc, tous les aliments, du moment que c'est transformé à un minimum, il y en a aussi. Et même quand on a une alimentation saine, on ne peut jamais se passer totalement de tous ces aliments-là. Donc, pareil, les 2 grammes par jour me paraissent quand même difficilement atteignables. Après, je ne pense pas de ce fait qu'on puisse être en carence de sodium. Sachant qu'encore une fois, il y a un système de régulation qui existe, qui est celui de l'aldostérone, hein, je l'ai déjà cité, qui fait que de toute façon, même si les apports sont minimes, l'aldostérone va faire en sorte de sauvegarder ce sodium. Mmh. Donc, faut voir un peu les aboutissants de cette étude, mais je ne sais pas trop. Je suis un peu sceptique par rapport à ça.
Bah là, je crois que ça, c'était une méta-analyse, hein, pour le coup. C'était pas une étude spécifique. Bref, tout cas, je la mettrai en lien parce que je trouvais ça intéressant. Et du coup, moi, ça m'a fait me poser la question de, en gros, ça ressemble à quoi, 5 grammes? Et bah, vous pouvez faire le test chez vous, hein. Ce que j'ai fait, j'ai rempli une petite coupelle et puis j'ai mis 2 grammes, puis j'ai mis 5 grammes, puis j'ai mis 10 grammes, juste pour me représenter visuellement ce que c'était par exemple que de manger 10 grammes de sel, parce que bon, le sel c'est pas que du sodium, certes, mais c'était aussi pour voilà essayer de comprendre un petit peu mieux à quoi ça correspondait, quoi. Et mine de rien, bah, 5 grammes c'est déjà pas mal, hein. Et puis 10, enfin 10 c'est beaucoup, tu te dis comment est-ce que je fais pour en gérer tout ça dans la journée?
Bah, très vite.
Un autre truc du coup que j'ai en fait ça c'est plutôt quelque chose je vois j'ai vu au fil des années tant cette chose que son inverse et c'est la quantité en fait de sel enfin disons juste de sel pour simplifier hein, mais en soi on parle de sodium mais la quantité de sel nécessaire pour l'effort physique. Et la raison pour laquelle je vois tout et son contraire, c'est que d'un côté, je vois qu'on nous dit qu'il faut supplémenter en sel lors de l'activité physique, et également, je vois que on nous dit bon, finalement t'as pas besoin de plus. C'est-à-dire que le sel que tu perds dans ton activité physique, c'est juste du rab. En fait, tu perds du sodium dont tu n'as pas besoin. Mais après, dans ma propre pratique, je sais que j'utilise du sodium dans mon activité physique et j'ai l'impression que ça marche mieux que quand je le fais pas. Après, en gros, le sel dans l'activité physique, enfin le sodium dans l'activité physique, quid de tout ça, enfin, est-ce que c'est nécessaire d'en apporter plus lorsqu'on est plus actif ou pas?
Oui, alors déjà, il faudrait parler des sels au pluriel, parce qu'effectivement, il
Oui.
n'y a pas que. Parce que pendant l'activité physique, on perd beaucoup de minéraux, dont le sodium, bien sûr, mais ce n'est pas le seul. Mais ça me paraît quand même tout à fait pertinent, puisque le sodium, en fait, on va en perdre plus vite que le système de régulation permet de le sauvegarder. Donc voilà, on va en perdre plus finalement. Donc ça peut être intéressant de ce fait d'en mettre dans une boisson, parce que bah, le sodium, parmi donc. Les autres minéraux aussi participent à l'excitabilité musculaire. Donc, si on se trouve en déficit trop important de sodium, par exemple, surtout quand il fait très chaud et qu'on fait un effort prolongé, ben, ça peut nuire justement au fonctionnement, notamment musculaire. Donc, ça me semble tout à fait judicieux de pourquoi pas y mettre un petit peu de sodium. Parmi d'autres nutriments également, on peut citer notamment le magnésium qu'on peut mettre, du calcium, des choses comme ça. Mais ouais, non, ça peut être vraiment intéressant, je pense. Et aussi pour participer à ce qu'on appelle la tonicité de la boisson, c'est-à-dire par rapport à la concentration globale en soluté donc de la boisson, et faire en sorte qu'elle soit isotonique, c'est-à-dire à la même concentration globale que celle du sang.
Intéressant. Parce que tu vois, sans, enfin, n'ayant jamais vraiment, enfin, on va dire parce que j'ai entendu les deux avis. Et que les deux venaient de gens qui avaient l'air quand même de s'y connaître. L'une des personnes qui est que j'ai le plus entendu sur parler de non besoin de complémentation, c'est le docteur Philippe Mafton, qui est assez connu dans les sports d'endurance en partie parce que il a coaché des gens comme Mark Allen, donc 6 fois je crois vainqueur du championnat du monde d'Ironman. Donc de triathlon XL. Donc bon, quelqu'un qui connaît un minimum son sujet quand même, mais lui le présente toujours comme ça, comme étant quelque chose de non nécessaire de complémenter. Après, j'ai beaucoup d'autres personnes très qualifiées qui disent le contraire. Donc de mon côté, je sais que bah j'utilise du sel dans l'effort, en tout cas c'est sûr. Déjà parce que je trouve ça, j'aime bien en fait, c'est tout. J'aime bien, enfin, par exemple, mettre des petites capsules de sel dans mes bouteilles d'eau, même si, tu vois. Et j'ai l'impression que quand je fais ça, bah, je vais plus loin, en fait, tout simplement. Je vais plus loin avec un même apport calorique. Donc, moi, j'ai trouvé ça efficace. Après,
Ouais,
d'après ce
je
que tu
pense que
expliques, c'est pertinent, en tout
ça peut être pertinent. Après,
cas.
je n'irai pas jusqu'à dire que c'est nécessaire.
Ouais.
Non, mais effectivement, ça me semble quand même pertinent. Voilà. Sont pertinents par rapport à ce que je vais expliquer. Ouais.
Le lien en fait entre le du coup le effectivement le sodium enfin c'est comme tu disais c'est pas le sel c'est les sels et t'en as du coup d'autres également qui sont compris là-dedans puis tu parlais du magnésium qui lui aussi est souvent mis en avant dans une démarche de santé des compléments en magnésium en zinc également Bah parlons-en un petit peu. Pourquoi est-ce que le zinc et le magnésium on fait autant une fixette dessus aujourd'hui?
Bon, déjà, on va parler, je pense, plutôt du magnésium, qui est, je pense, déjà parmi les deux minéraux, celui qui est peut-être probablement le plus connu. On en voit partout. Enfin, en tant que pharmacien, le magnésium, ça fait partie des rayons, vraiment. Et c'était souvent quelque chose de conseillé ou même plébiscité tout simplement par les gens de façon naturelle. Alors le magnésium, pourquoi il est aussi important? Parce qu'en fait, il intervient sur énormément donc de réactions biochimiques dans l'organisme. Hein. Les experts, on parle en général de plus de 400 réactions biochimiques dans l'organisme, donc c'est vraiment énorme. Et par nos modes de vie, donc que ce soit l'alimentation qui est du coup bien sûr de plus en plus pauvre en micronutriments, dont le magnésium. Plus, ajouter à cela nos modes de vie hyper stressants, des sollicitations permanentes font que en fait on perd beaucoup de magnésium par jour et qu'on se retrouve en quelque sorte en déficit chronique donc de magnésium qui peut avoir donc toute une kyrielle de conséquences sur la santé. Et par exemple donc le magnésium il peut être hyper intéressant. En fait il a plein de rôles. Donc c'est par exemple un antiépileptique naturel quelque part. Ça vient stabiliser quelque part les neurones. C'est également le premier inhibiteur calcique naturel. C'est-à-dire qu'il peut donc s'opposer à une activité trop importante du calcium sur les muscles. Donc par exemple pour lutter contre l'écran. Ça intervient dans le métabolisme énergétique, ça intervient dans les os, on l'a dit, sur plein de choses. Donc ça, c'était par rapport au magnésium. En plus de ça, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a certains médicaments, hein, des diurétiques, hein, donc qui sont des traitements relativement courants, qui entraînent dans les effets indésirables, et ça, c'est peu connu, qui entraînent en fait une perte excessive de magnésium dans les urines. Donc ce qui peut encore aggraver donc la carence. Donc pour le zinc, c'est un autre micronutriment aussi qui peut faire l'objet de pas mal de carences, et c'est un peu le petit frère du magnésium, si on veut bien, dans la mesure où il intervient aussi. Alors, en général, on parle de plus de 200 réactions biochimiques, donc c'est quand même très, très important. Ça intervient notamment dans la synthèse donc de toutes les protéines de l'organisme. Ça vient également moduler les activités des neurones pour pas qu'ils soient trop excitables, et donc ça vient quelque part les calmer et agir comme une sorte d'antiépileptique aussi naturel, si on veut bien. Ça vient intervenir dans la synthèse donc des hormones comme l'insuline, par exemple, ou la testostérone. Voilà, donc vraiment plein de rôles importants, et l'alimentation fait qu'on peut être justement pas mal carencé.
Je voulais revenir à ce que j'ai oublié de te demander sur le calcium, justement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre le calcium osseux et le calcium sanguin? Parce que ça, c'est quelque chose qui, enfin, c'est un sujet qui revient dans lorsqu'on parle en fait de problèmes cardiaques. Souvent, on parle, enfin, il y a ce problème de calcium dans les artères. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la différence? Est-ce que c'est le même calcium?
Après, le calcium, quand je dis dans l'os, il est sous forme de cristaux un petit peu complexes, qu'on appelle de l'hydroxyapatite, c'est-à-dire que le calcium n'est pas tout seul, il est complexé, donc il est fixé en fait à d'autres minéraux pour faire quelque chose de solide, en fait un précipité qui vient former cet os. Après, le calcium sanguin, donc il est sous forme libre, hein, donc sous forme, enfin libre, non, il va être lié à certaines protéines, mais on va dire il est pas fixé à d'autres minéraux. Après, le risque, c'est que, effectivement, ce que tu disais, c'est que le calcium peut avoir, lorsqu'il est en excès ou pas bien régulé, ou par exemple un déficit en vitamine K2, par exemple, eh ben, le calcium peut avoir tendance en fait à se fixer là où il ne devrait pas, et donc à précipiter justement dans des tissus mous, comme par exemple les artères, ce qui va contribuer à rigidifier donc les artères, à faire de l'hypertension, rigidifier du coup une plaque d'athérome et la rendre du coup plus rigide et donc moins stable, du coup, des choses comme ça, voilà.
Ouais, donc c'est effectivement le même calcium, c'est juste qu'il n'est pas sous la même forme.
Ça.
Et c'est pour ça qu'on les différencie. Qu'on ne les regarde pas sous le même contexte, quoi.
Voilà, après le calcalcium de l'os, donc l'os c'est quand même une grosse réserve de calcium, mais qui peut potentiellement donc passer dans le sang en fonction des systèmes de régulation hormonaux, hein. Il existe tout un système, hein, celui de la parathormone notamment et de la calcitonine. Et donc ce réservoir osseux de l'os peut faire que le calcium passe dans le sang. Et donc, par exemple, je vais donner un exemple très concret sans rentrer dans les détails biologiques, mais quand on est en carence de vitamine D, par exemple, et justement ce système hormonal qui se met en place, donc il y a une hormone qui s'appelle la parathormone qui vient augmenter quand on est en carence de vitamine D. Et la parathormone, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va rogner dans l'os pour libérer du calcium. Donc, ce qui va participer notamment à l'ostéoporose, mais en libérant ce calcium dans le sang, eh ben, ce calcium qui est libéré va pouvoir se fixer ailleurs, à des endroits où il ne devrait pas se fixer, par exemple, on l'a dit, dans les tissus mous, et contribuer à ces fameuses calcifications extra-osseuses qui sont, voilà, qui sont bien délétères. Ce qui, encore une fois, est un argument supplémentaire pour avoir un statut en vitamine D qui soit optimal.
Bien sûr. D'ailleurs, puisqu'on est revenu sur la vitamine D, c'est l'occasion de te poser la question, mais la supplémentation, ou la complémentation plutôt, je sais plus, je me perds entre le français et l'anglais, je veux dire supplémentation, et on corrigera si c'est pas bon, en vitamine D, donc la vitamine D en fait de synthèse, hein, parce que on n'a pas... Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est assimilé de la même manière que par le corps que ce qu'on va pouvoir du coup synthétiser nous-mêmes?
Déjà, dire que c'est pas toujours de la vitamine D de synthèse. Effectivement, il y en a sous forme de synthèse quand c'est dans certaines formes médicamenteuses, ouais. Mais ça existe tout à fait sous forme naturelle. C'est-à-dire que souvent dans les compléments alimentaires d'origine naturelle, si on va prendre par exemple de la peau de mouton qui aura été exposée, là, et ensuite on récolte donc cette vitamine D. Après, non, il n'y a pas de problème en termes d'absorption. Ça va arriver dans le sang et ça va finalement rejoindre la même voie métabolique et on va aboutir aux mêmes dérivés finaux qui sont donc la 1,25 d'hydroxycalciférol ou qu'on appelle également calcitriol qui est la forme active finalement de la vitamine D. Donc non, il n'y a pas de problème.
Donc ça, c'est une bonne voie si on sait que si on a des niveaux en vitamine D qui sont un peu bas. Certes, s'exposer au soleil sera bénéfique, mais on peut aussi envisager du coup la supplémentation.
Tout à fait, parce qu'en plus, s'exposer au soleil, encore une fois, faut pas se leurrer. Enfin, en tout cas, à nos saisons, à cette saison hivernale, le soleil est. Alors déjà, quand bien même il ferait suffisamment bon pour qu'on puisse s'exposer de façon relativement dénudée, si je puis dire, le soleil est trop bas dans l'horizon et donc les UV pas assez puissants pour avoir un effet optimal. Ou alors, il faudrait s'exposer des heures et des heures. Mais voilà, clairement, le soleil, c'est pas que le soleil en lui-même qui est important, c'est également la période de l'année et donc la hauteur finalement du soleil sur l'horizon qui fait que. Et en hiver, ce rayonnement, il est très faible.
Oui, tout le monde n'est pas Wim Hof, le Iceman, capable d'être torse nu, même dans le cercle polaire. Donc c'est sûr que ouais, c'est aussi, faut pouvoir avoir assez de surface de peau exposée, et ça, c'est pas si simple. Quoi.
La complémentation, elle est vraiment, pour moi, elle est primordiale. Elle est même, je dirais même indispensable, plus que primordiale.
On parlait des différentes composantes de l'os, hein, et tu l'as cité, le collagène, qui lui aussi est du coup quelque chose qu'on voit dans les compléments alimentaires. Le collagène, moi j'ai des questions dessus, parce que je sais qu'il y en a différentes sortes, et que donc potentiellement on a du coup du collagène qui est d'origine animale et du collagène qui est d'origine végétale.
Bah, le collagène, déjà, il y a différents types de collagène dans l'organisme. Pas qu'il soit animal ou végétal. Alors, végétal, je suis en train de réfléchir, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a du collagène végétal. Je pense pas que ça existe. Enfin, je sais pas. Pour moi, le collagène, c'était qu'animal. C'est ce qu'on trouve notamment dans la peau. Enfin,
peut-être de synthèse. C'est comme ça que je l'ai vu, en tout cas.
Ouais, peut-être. Quoi qu'il en soit, après, tu as parlé de compléments alimentaires, donc collagène d'un complément alimentaire. Franchement, ça n'a pour moi aucun sens. Pourquoi? C'est hyper facile à comprendre. C'est que le collagène, en fait, c'est quoi? C'est une protéine. Et comme toute protéine, si on la prend par voie orale, eh ben, elle va être digérée. Donc, elle va être digérée et donc, on ne peut plus que les acides aminés qui la composent et on ne va pas retrouver le collagène en tant que tel. Donc, c'est illusoire de croire qu'en prenant du collagène par voie orale, on va retrouver du collagène en tant que tel qui ira à l'endroit où on le souhaite. C'est comme si on disait, on va manger un steak de bœuf, on va avoir des cornes qui vont pousser. Heureusement que c'est pas le cas. Donc, le collagène, c'est exactement pareil.
Dommage.
Ça tombe
vachement bien, en fait, que tu ailles dans ce sens-là, parce que c'est exactement ce que je voulais te demander. C'est-à-dire que pour ce qui est du collagène qu'on trouve effectivement en complément alimentaire, comme tu le dis, on le digère, ça devient des acides aminés. Du coup, enfin, en gros, le collagène qu'on ingère, donc qu'on va trouver, donc par exemple, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez voir du collagène à l'état pur, vous pouvez regarder la membrane d'un œuf. C'est-à-dire que si on doit enlever la coquille de l'œuf, la petite membrane un peu élastique qui est à l'intérieur, ça c'est quasiment, je crois que c'est même 100% du collagène. Donc c'est à ça que ça ressemble. Mais le truc, c'est que ce collagène, effectivement, comme tu le dis, on le digère, ça devient des acides aminés. Mais est-ce que ces acides aminés, on les réutilise pas nous-mêmes ensuite pour fabriquer notre propre collagène?
Alors si, effectivement, on les réutilise ensuite, voilà, mais c'est de façon, j'ai envie de dire, hasardeuse en fonction des besoins de la cellule. Donc, c'est-à-dire que c'est qu'on a apporté à l'origine le collagène, que ça va donner l'information à l'organisme ensuite d'utiliser ces acides aminés particuliers pour faire du collagène, si la cellule n'en a pas besoin. Donc ça n'aura pas un effet qui sera supérieur à celui que si on apporte par le biais de l'alimentation les mêmes acides aminés qu'on trouve dans les viandes, dans les sources de protéines autres comme le poisson ou les protéines végétales. Ça aura exactement le même effet. Donc finalement, on paye, enfin je dis « on », c'est pas « on » à titre personnel, c'est « on paye cher » à quelque chose qui est donc sous forme de complément du collagène, alors qu'en fait, ça aurait exactement le même effet que de manger en fait finalement tout simplement des protéines alimentaires, quoi, tout simplement.
Ouais. D'accord, bah tu vois, c'est justement ça que je trouve intéressant. Mais du coup, c'est effectivement que ces acides aminés, en fait, tu peux les trouver ailleurs. Ouais. Donc, t'es pas forcément obligé de te tourner vers le collagène.
Exactement.
D'ailleurs, moi, ça me fait une petite dérive, peut-être un peu moins micronutrition et plus juste alimentation et cuisine, qui sont des sujets qui me tiennent à cœur. Mais par exemple, le bouillon d'os. Va forcément contenir du collagène puisque ton extrait en fait de l'os lui-même, ça va contenir beaucoup de calcium et pas mal d'autres minéraux et c'est du coup quelque chose qui est vraiment appréciable à avoir dans une alimentation. Mais la raison pour laquelle du coup je voulais en parler, c'est que dans ce bouillon d'os, on a du coup effectivement pas mal de calcium et j'ai déjà vu, et je sais pas du coup démêler le vrai du faux là-dessus. Que c'était une source de calcium qui était très assimilable, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as des informations là-dessus?
Pour le coup, là, tu me poses une colle. je ne sais pas pourquoi c'est une calcium sous forme assimilable. Je pense que c'est la forme qui fait que, comme souvent, les micronutriments, ils peuvent exister sous différentes formes. Le magnésium, il y a différents sels de magnésium, mais probablement que là, c'est un calcium sous forme d'un sel particulier ou qui fait que, justement, il ne sera pas complexé à d'autres... et puis alors oui, du coup, je viens de penser quand même à un élément de réponse éventuel, c'est que du coup, cette source de calcium là, elle ne sera pas, contrairement donc au calcium qu'on peut trouver dans d'autres sources, elle sera pas complexée avec des fibres ou avec de ce qu'on appelle des phytates ou des oxalates ou des choses comme ça. Je pense que c'est pour ça que c'est mieux absorbé. Voilà, c'est l'hypothèse que j'aimais, mais.
Oui, mais je me suis jamais posé la question parce que de toute façon j'aime le bouillon d'os, donc à partir de là, voilà. Hein. Et que la forme de calcium soit plus assimilable ou pas, ça n'aurait rien changé à tout ça. Mais voilà, ouais, effectivement, oui, ça, dans cette logique-là, en tout cas, le fait que ça soit pas associé à d'autres choses, ça c'est beaucoup plus cohérent. C'est vrai que lorsqu'on regarde, par exemple, certaines légumineuses qui du coup sont assez riches en calcium, effectivement il y a tout un processus de digestion alors que qui est nécessaire du coup pour démêler ce calcium comme tu dis d'autres éléments, alors que effectivement dans le bouillon d'os on a juste extrait en fait le calcium et on l'a dilué dans de l'eau, quoi. Bon, ouais. En sursimplifiant peut-être, mais
ça, en fait il y a cette notion de matrice alimentaire en fait qui dans un bouillon en fait c'est une matrice qui n'existe plus qui quelque part, donc c'est ça qui fait que je pense que le calcium est aussi beaucoup plus biodisponible, contrairement à comme tu disais dans les légumineuses où il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des phytates, encore une fois, qui forment donc des complexes en fait de phytates de calcium qui sont insolubles. Donc je pense que c'est effectivement pour la raison-là que dans le bouillon d'os, c'est bien plus assimilable.
D'accord. Bah, en tout cas, oui, ça tient clairement la route. Enfin, je trouve ça assez logique, en fait. J'ai pas pensé sous ce regard-là. Dans les autres sujets qu'on s'était fixés, il y en a un j'ai besoin de tes lumières, c'est le fer. Le fer, déjà parce que c'est les fers, d'ailleurs, puisqu'on parle de fer hémique et de fer non hémique. Et je sais que dans... alors, c'est quelque chose que moi, je vois beaucoup chez les sportifs, surtout chez les sportifs d'endurance. Il y en a beaucoup, en fait... enfin, beaucoup. Non, il y en a qui sont sujets à des problématiques d'anémie. Je le vois aussi chez les femmes, selon les périodes de leur cycle menstruel. Et Du coup, c'est toujours cette idée que bah, du coup les gens se retrouvent avec une carence en fer, mais ils se retrouvent en carence de quel fer? Et pourquoi? Enfin, c'est quoi la différence entre ces deux fers déjà?
La différence entre ces deux fers, elle est, c'est voilà, c'est la différence, elle est au niveau alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le fer héminique et le fer non héminique. Donc, on va y revenir. Donc, le fer héminique, c'est celui qu'on trouve notamment donc dans la viande rouge, qui est complexé donc à ce qu'on appelle l'HEM. L'HEM, voilà, c'est une molécule un petit peu particulière. Donc, le fer complexé à cette HEM, on appelle ça du coup du fer héminique, qui est donc celui donc de la viande rouge, encore une fois, c'est celui d'ailleurs qui colore la viande en rouge, hein, c'est pas du sang, hein, la viande rouge, encore une
Ouais.
fois, c'est lié au fer qui est sous forme héminique. Donc, quand on mange donc de la viande, le tube digestif en fait va reconnaître spécifiquement justement l'HEM qui entoure le fer, donc ce qui fait que ce fer va être beaucoup plus assimilable. On dit en général à hauteur de 30%. Contrairement au fer qui est non héminique, donc qui est sous forme purement minérale, hein, donc sous forme donc dans les végétaux sous forme ferrique, hein, on appelle ça sous forme ferrique, ce fer il est beaucoup moins bien absorbé pour différentes raisons. C'est que déjà il doit subir une petite réaction chimique au préalable pour être transformé en forme ferreux, qui est une autre sorte de fer du coup, et ça a besoin donc de vitamine C pour ça.
D'accord.
Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, ce fer non héminique, il est pas protégé par l'HEM, donc il peut être complexé, comme je te disais tout à l'heure, par des phytates, par des oxalates, des choses comme ça, d'autres minéraux qui peuvent du coup nuire à son absorption. Donc son absorption est beaucoup dépendante finalement du reste du bol alimentaire, et on dit en général que c'est de l'ordre de 5 à 10% d'absorption maximum pour le fer végétal.
Ouais, donc c'est typiquement quelqu'un qui a des problématiques, enfin qui a des carences en fer en fait, pas sans pour autant rentrer dans une situation d'anémie, hein, qui est enfin, un stade plus avancé, hein. Mais donc on pourrait leur recommander dans une, en tout cas dans une démarche ne serait-ce que thérapeutique, de du coup se tourner plutôt vers des sources de fer, bah du coup héminique. Parce qu'il y aura une meilleure capacité d'absorption.
Exactement, c'est pas le tout en fait que moi j'entends souvent dire. On parle souvent des lentilles, des choses comme ça. Alors effectivement, ce sont des aliments qui ont beaucoup de fer, mais encore une fois, faut pas confondre quelque chose qui est riche en fer et la biodisponibilité, qui sont deux choses bien différentes. Donc c'est pas le tout qu'un aliment contienne beaucoup de fer. Encore faut-il qu'il soit absorbable. Et dans le cas des lentilles, par exemple, eh ben ce fer, ça reste du fer végétal et donc peu absorbable, d'autant que dans les lentilles, ben encore une fois, il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de phytates, des choses comme ça qui vont limiter beaucoup son absorption, tandis que dans les viandes rouges, par exemple, ou le boudin noir, ou les choses comme ça, voilà, c'est extrêmement biodisponible, c'est très très bien, c'est beaucoup plus biodisponible que le fer végétal. Donc, effectivement, favoriser ce genre de source plutôt que le fer végétal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas complémenter en plus en fer végétal, hein. Ce n'est pas inintéressant non plus, hein, je n'ai pas dit ça, mais ce ne sera pas optimal.
Bah, ce que j'ai beaucoup, alors c'est plus le cas en ce moment, mais j'ai travaillé avec des gens qui étaient sur des alimentations véganes, donc complètement exclus de la moindre source de d'alimentation animale, et c'est toujours un peu un défi, c'est-à-dire que c'est assez difficile en fait de maintenir de bons niveaux sans complément alimentaire. Avec, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Mais c'est en fait c'était pas si facile que ça parce que bah tout simplement en soi c'était possible d'aller trouver la quantité nécessaire de chaque micronutriment et le sujet du fer revenait régulièrement mais dans l'assiette en fait on pouvait la trouver. Le problème c'est que pour la trouver parfois il fallait avoir des quantités un peu irréelles de tel ou tel aliment donc imaginons devoir s'enfourner des pelletées de lentilles par jour. Bah le truc, enfin si je prends cet exemple-là, hein, mais si on devait trouver la totalité de nos besoins en fer dans les lentilles, effectivement, on serait aussi obligé de consommer énormément de glucides qui viennent avec, ce qui fait que du coup, bah il faut pouvoir les contrebalancer enfin dans le reste en fait de sa démarche santé. Et en fait, ça mettait, enfin ça devient ensuite une matrice en fait de choses que tu dois gérer en même temps. Et c'est vrai que c'est pas si simple. C'est plus facile sur les alimentations mixtes, peu importe laquelle, parce qu'effectivement, bah du coup, tu vas trouver ton fer dans, bah tu l'as cité par exemple le boudin noir ou autre chose. Mais bon, enfin tu vas le trouver ailleurs et il sera beaucoup plus disponible, donc il t'en faut pas tant que ça pour atteindre en fait tes besoins.
C'est ça.
Voilà. Mais c'est du coup c'était plus complexe. Bah d'ailleurs, on y a un petit peu, on est un petit peu touché déjà. Enfin, on tourne autour depuis tout à l'heure. On a beaucoup parlé de protéines, qui n'étaient pas spécifiquement dans le sujet, mais c'est extrêmement connecté en fait tout ce qu'on a pu discuter jusqu'ici. Et le rôle, en fait, le rôle de la protéine dans la structure du corps, parce que, enfin, la manière dont j'aime bien le présenter, en fait, c'est que moi, je dis que la protéine, en fait, c'est la brique. C'est la brique qu'on utilise, en fait. C'est la base, en fait, de tout ce qu'on fait. Tous les tissus, l'intestin est fait à base de protéines, la peau, c'est fait avec des protéines, les os, c'est fait avec des protéines, les muscles, c'est fait avec des protéines. Donc, c'est pas que là. Et, en fait, c'est selon la partie du corps qu'on regarde, en fait, c'est juste, en fait, un assemblement, un assemblage de protéines avec différents minéraux, en fait, c'est ça?
Avec différents, pardon.
Avec différents minéraux, différentes structures. On prenait l'exemple de l'os tout à l'heure, on vous disait c'est une matrice de protéines avec des minéraux posés dessus, par exemple. C'est un peu ça, non? Enfin, je simplifie un peu, mais c'est vraiment la base, en fait, de toute construction dans le corps, c'est ça?
Si on veut, alors c'est pas que les protéines, bien sûr, mais effectivement, enfin, tu l'as dit assez justement, quand on regarde finalement quel que soit l'organe, il y a toujours des protéines tôt ou tard qui sont vraiment qui ont un rôle structurel ou structural plutôt, qui est prépondérant, qui sert vraiment à l'armature, on va dire, architecturale du corps, mais pas que à ça. Il faut quand même se rappeler aussi que les protéines, des anticorps, par exemple, les anticorps qui servent donc à nous défendre contre les infections, c'est des protéines, ni plus ni moins. Autre exemple aussi très important, les enzymes, qui sont des petites, j'appelle ça un peu des sortes de machines biochimiques qui permettent de réaliser toutes nos réactions biochimiques qui nous permettent de fonctionner. Les enzymes, c'est des protéines. Donc ça a vraiment un rôle structural, certes, mais pas que, qui va vraiment au-delà du rôle structurel. Il y a aussi le rôle énergétique aussi, potentiel des protéines. Donc ça a vraiment un rôle, des rôles multiples qui sont vraiment hyper importants.
Oui, c'est un peu le macronutriment à tout faire, quoi.
C'est ça, si on veut bien.
Justement, dans ce regard, en fait, sur les protéines, alors, d'après ce que j'ai compris, ça serait faux, mais il y a eu beaucoup, en tout cas, historiquement, on a beaucoup dit que les protéines pouvaient être toxiques à trop grande quantité. D'après ce que j'ai compris, ce serait faux. Peut-être que ça l'est, mais enfin, en tout cas, peut-être qu'on a exagéré en tout cas ce propos. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de ça? Parce que moi, enfin, j'ai bien compris et je le vois bien dans ma propre activité sportive, par exemple, avoir un bon niveau de protéines, je me sens globalement mieux, je récupère mieux, etc. On le voit de toute façon dans le sport, la protéine, on associe la protéine aux muscles, mais il n'y a pas que ça. Parce que, bah, effectivement, il faut, on parle de densité osseuse, enfin, il faut reconstruire tout ça. Mais est-ce que il y a quelque chose qu'on peut dire justement sur un excédent de protéines?
Après, tout excès est néfaste, de toute façon. Après, il faut voir si c'est un léger excès, dans le cadre, par exemple, d'une activité physique où on peut avoir un léger excès pour stimuler finalement la croissance musculaire de façon consécutive à un effort, ou si c'est vraiment un excès qui est démesuré. Tout dépend. Après, il peut y avoir en effet des effets, si on veut bien, indésirables. Quand on ingère trop de protéines, ça peut être notamment au niveau du tube digestif. Les protéines, quand elles sont donc en excès et indigérées, enfin, ou pas suffisamment digérées, ça peut faire de la putréfaction. Donc ça peut nuire notamment au niveau du microbiote intestinal. Des choses comme ça peut avoir aussi un rôle, on va dire, acidifiant, c'est pour l'organisme. Après, tout dépend, encore une fois, des quantités qu'on en prend. Voilà, c'est... Mais après, je ne sais pas si tu voulais parler par rapport à une certaine toxicité du rein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la toxicité des protéines au niveau du rein, c'est en fait, les protéines sont toxiques pour le rein, mais que quand elles sont, encore une fois, à l'état de protéines, en fait, dans le sang. Et donc, en fait, il faut encore rappeler la chose suivante, c'est que quand on va ingérer nos protéines, elles vont se retrouver, encore une fois, sous forme d'acides aminés. Donc, on n'aura pas ce problème particulier de toxicité au niveau du rein, quoi. C'est que quand il y a des protéines qui proviennent de l'organisme et qui sont libérées en l'état dans le sang, que ça peut effectivement avoir une toxicité sur le rein.
Tu peux nous donner un exemple de situation où l'organisme libérerait justement des protéines dans le sang?
Ouais, ben justement, j'allais y venir, mais c'est bien que tu me tendes la
Ouais.
perche. Ben, tout simplement, quand, par exemple, on est dans un état d'hémolyse importante, donc quand on a une destruction, alors, pour raison X et Y, hein, quand on a une situation où donc, les globules rouges se détruisent de façon massive, donc on a libération d'hémoglobine, par définition, hein, puisque c'est ce qui est contenu dans les globules rouges, libération d'hémoglobine importante, et une trop forte libération d'hémoglobine dans le sang. Alors, même si un système de sauvegarde, parce que l'hémoglobine va être prise en charge par une autre protéine, bon, peu importe son nom, mais ce système peut te dépasser, et quand il y a trop d'hémoglobine dans le sang, et ben ça peut justement avoir comme conséquence une insuffisance rénale, nuire au fonctionnement rénal. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est par exemple dans des situations qui sont pas très courantes, d'ailleurs fort heureusement, quand par exemple à l'occasion d'un tremblement de terre, que quelqu'un se retrouve enseveli sous des décombres, et le fait d'avoir été écrasé plusieurs heures par des décombres, en fait, il y a des lésions musculaires qui se font et qui peuvent libérer donc, du coup, des protéines comme ça, on appelle ça le crush syndrome, et ces protéines donc, qui vont être libérées dans le sang, ben, en l'état, en tout cas sous forme de gros fragments peptidiques au moins, peut-être pas protéines, mais au moins peptidiques, et ben, peuvent justement nuire à un.
Ben,
Voilà.
j'aurais vraiment pas cru qu'on prendrait ça comme exemple, mais ouais, pas mal. Intéressant. Ouais, en tout cas, c'est sûr que cette notion, enfin, c'est bien de pouvoir du coup faire un peu la différenciation entre la protéine que tu ingères effectivement et qui ensuite, enfin, que toi tu digères du coup et que tu construis c'est vrai que c'est la protéine et la brique en fait, là c'est quelque part, c'est les micro-briques quoi. Enfin, tu sous-divises ça en fait et ensuite tu reconstruis là où il faut, hein. Donc, le corps est plutôt intelligent en fait, hein, parce que la majorité des choses en fait, lorsqu'on les mange en fait, vont être digérées. C'est comme que ce soit les protéines, les lipides, enfin. Un lipide, nous on en fait des triglycérides quoi, donc c'est alors le bout de gras, c'est pas, il arrive pas sous forme de gras en direct par exemple. Pareil pour un glucide. Un glucide, nous on en fait du glucose et ensuite on le répartit ailleurs. Enfin tout est transformé en fait. Nous sommes un système de transformation complexe. Mais
Alors, je voudrais juste
ouais,
revenir
vas-y.
aux protéines, juste pour revenir à propos du rein quand même. Faut être quand même complet sur la réponse. Ce qu'il faut quand même comprendre, quand même dans des cas d'insuffisance rénale justement chronique, il faut quand même savoir que le rein a pour notamment mission d'éliminer l'azote des protéines donc sous forme d'ammoniac, enfin d'ammonium même, l'éliminer cet ammonium qui est en excès dans les urines. Donc, ce qu'il faut quand même pour le coup comprendre, c'est quand on est dans un cas d'insuffisance rénale, il faut limiter du coup quand même l'apport en protéines pour justement limiter cette accumulation d'ammonium qui peut être toxique. Mais ça va pas, on va dire, aggraver l'insuffisance rénale. C'est parce que le rein est insuffisamment compétent pour éliminer l'excédent, on va dire, de protéines que ça peut nuire. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre.
D'accord. Merci. Justement sur ce regard en fait comment dire, l'équilibre des micronutriments, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait avant, sur la notion de trouver du coup ces micronutriments, tu sais, dans les sources végétales, animales, enfin globalement surtout plus disponibles qu'une autre, hein, c'est de ça qu'on parlait. Le principe en fait d'avoir certaines sources en fait qui sont plus disponibles que d'autres, ça va potentiellement avoir un impact du coup sur notre capacité à absorber certaines choses. Mais est-ce qu'il y a des micronutriments qui sont plus difficiles à trouver dans notre alimentation et qui sont pourtant essentiels? Parce que moi j'ai l'impression que c'est pas trop difficile de trouver les plus connus, mais est-ce qu'il y en a où on a tendance à être en carence par exemple, si on manque d'alimentation enfin, si on manque typiquement d'alimentation d'origine animale, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire plus attention que d'autres?
Alors oui, tout à fait. Bah, le fer, on l'a déjà cité, ça c'est un bon exemple. Le zinc en fait partie également, parce que
D'accord.
le zinc, on trouve dans les produits animaux aussi, souvent dans les viandes, beaucoup. Je pense à quoi? Je pense au fameux oméga-3 sous forme allongée,
Ouais.
hein, donc le fameux DHA, qu'on trouve quasi exclusivement, pour pas dire exclusivement, dans les poissons gras. Donc voilà, c'est aussi une bonne chose dont on se prive. À quoi d'autre je pense? Non, c'est déjà pas mal. Fer, zinc, oméga 3. qui sont bah, des micronutriments majeurs donc dont on ne peut pas se passer, quoi.
Ouais.
Donc ouais, effectivement, se passer de produits animaux, ça fait quand même, il faut faire attention par là. Alors si j'en ai oublié quand même une majeure, c'est honte à moi d'avoir oublié ça, c'est bien évidemment la vitamine B12, qui est qu'on trouve exclusivement donc dans les produits animaux. Donc ça, c'est bien connu d'ailleurs des véganes qui se complètent de façon bah, à vie, hein, quelque part, en vitamine B12, hein, parce que c'est tôt ou tard, ça aura des répercussions de toute façon. Donc voilà.
D'accord. Et le rôle de cette vitamine B12, c'est quoi exactement?
Alors, comme d'hab, il n'y a jamais qu'un rôle, hein, il y a plusieurs rôles, mais le rôle majeur, on va dire, on peut les citer, c'est notamment pour le renouvellement de toutes les cellules à renouvellement rapide.
D'accord.
Les premières sont les cellules sanguines, donc une carence en B12, typiquement, ça peut faire une anémie, mais pas une anémie par carence en fer, du coup, une anémie par carence en B12.
D'accord.
On appelle mégaloblastique, c'est un nom particulier. Ça peut avoir aussi des conséquences sur le cerveau et sur la myélinisation des neurones, donc c'est-à-dire sur la gaine de graisse qui entoure donc qui entoure du coup les neurones et qui servent du coup à la conduction nerveuse. Ça peut nuire également à tous les processus qu'on appelle les processus de méthylation, ces processus de méthylation en fait servent à fabriquer tout un tas de molécules biochimiques. La mélatonine, par exemple, plein de molécules comme ça, mais ça sert également à méthyler donc l'ADN et réguler quelque part l'expression de nos gènes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épigénie. Voilà, donc ça a plein de rôles importants.
Bah oui, c'est vrai que je l'avais oublié pour le coup. Enfin là, c'était venu à l'esprit. Heureusement, tu y as pensé. C'est vrai que la vitamine B12, c'est quelque chose dont on parle souvent lorsqu'on parle d'alimentation végétale, tout simplement parce que bah il y a tendance, enfin. Elle est, on peut pas l'obtenir là-dedans, donc c'est sûr que ouais, c'est quelque chose à surveiller effectivement si on pratique une alimentation végétale, de s'assurer que bah on n'est pas carencé en B12 parce que c'est une chaîne en fait de problématiques qui peut en découdre. On en avait un petit peu parlé, il me semble, la dernière fois que tu étais venu, mais j'aurais bien remis une couche dessus quand même. Parce que je pense que c'est important, c'est le cholestérol.
Ouais, tout à fait.
Et alors, le cholestérol, c'est quelque chose qui inquiète énormément, parce que bah, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que le cholestérol en soi, c'est quelque chose qu'on produit avant tout au niveau de l'organisme, et que finalement, le cholestérol alimentaire est pas si, enfin, a pas un aussi gros rôle que ce qu'on pourrait penser. Et qu'en fait, la production de cholestérol est plus liée à notre organisme finalement que à ce qu'on va mettre dans notre assiette. Donc finalement, que on mette beaucoup de beurre dans la cuisine ou pas, ça va pas forcément avoir une énorme incidence sur le cholestérol. Par contre, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent l'être. Mais aussi, bah, ce qui nous inquiète dans le cholestérol, c'est pas tant le cholestérol lui-même. C'est la fameuse lipoprotéine, enfin vous l'aurez déjà vu sur vos résultats sanguins, c'est le LDL. Donc c'est quoi? C'est low density lipoprotéine, je crois.
C'est ça.
Et qu'on appelle mauvais cholestérol. Mais bon, je me suis peut-être un peu avancé là-dessus. Est-ce que tu peux juste nous dire bah déjà à quoi ça sert le cholestérol, juste le cholestérol, pas le transporteur de lipoprotéines?
Donc le cholestérol, donc ça fait partie de la famille des lipides, hein, donc c'est une sorte de graisse si on veut bien, mais qui est différente de la graisse de type huile. Donc déjà le premier truc que je voudrais dire avant de développer, c'est que déjà c'est illusoire de vouloir se priver de toutes les graisses pour réduire le cholestérol. Ça n'a pas de sens, dans la mesure où le cholestérol c'est une graisse à part entière, c'est pas contenu dans toutes les graisses qu'on peut trouver, par exemple dans les huiles végétales il n'y a pas de cholestérol.
Ouais.
Voilà, ça c'est la première chose.
Genre l'huile d'olive.
Deuxième chose. Ouais, ou n'importe quelle huile, il n'y a pas de cholestérol de toute façon. Donc ensuite le cholestérol, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Il sert en fait de précurseur, c'est-à-dire en fait de matière première, hein, si on veut bien dire comme ça, pour fabriquer d'autres molécules qui seront utiles pour l'organisme. Donc on en a parlé au tout début de ce podcast, notamment la vitamine D, qui est fabriquée naturellement par la peau, on l'a dit. En fait, c'est les ultraviolets du soleil qui vont agir, qui vont venir taper sur le cholestérol pour le transformer et le transmettre du coup en vitamine D.
D'accord.
Donc ça c'est la première. Il y a aussi toutes nos hormones stéroïdiennes, donc tout ce qui est testostérone, estradiol, œstrogène, l'aldostérone dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, qui permet de réguler donc les taux de sodium et de potassium. vraiment le précurseur de plein de molécules, les acides biliaires aussi, donc c'est ce qui nous permet de digérer les matières correctement et absorber correctement les matières grasses. Donc voilà, ça c'est vraiment les principaux rôles en tant que précurseur moléculaire du cholestérol. Et aussi, le cholestérol a un rôle structural qui rentre en fait dans l'architecture de nos membranes cellulaires.
D'accord. Voilà,
donc très important.
Ouais, donc c'est super important en fait pour le bon fonctionnement du corps d'avoir du cholestérol. Mais par contre, c'est pas tant ce qu'on a dans l'assiette en fait qui va agir sur ces niveaux. C'est-à-dire que le corps lui, enfin, corrige-moi si je me trompe, hein, mais d'après ce que j'en sais ou en tout cas j'en ai compris, en fait, tu produis toi-même ton cholestérol. Hein. C'est vrai que c'est enfin majoritairement tu produis toi-même du cholestérol. Justement, bah, selon les besoins de ton corps sur un moment donné, c'est-à-dire qu'il peut évoluer de manière assez conséquente selon les besoins actuels de ton corps, c'est ça ?
C'est ça, oui, il y a un système de régulation, donc c'est le foie qui fabrique le cholestérol, et en fonction des besoins de l'organisme, ben, il va en fabriquer plus ou moins, en fonction aussi des apports alimentaires, donc il va réguler du coup à la baisse sa production, hein, donc c'est logique, ce qui explique notamment que le cholestérol alimentaire n'a quasiment pas d'impact sur le taux sanguin, puisque bah, justement le foie va réguler à la baisse sa production. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, c'est déjà illusoire de parler comme ça, si on voit bien, dans la mesure où c'est pas, encore une fois, le problème cardiovasculaire, c'est pas une question de cholestérol sanguin, donc il n'y a pas de lieu à s'inquiéter déjà de vouloir réduire son taux de cholestérol. Déjà, ça, c'est une erreur en soi.
Ouais.
Donc, bon, ça ferait l'objet d'un podcast à part entière, si on veut bien. Mais il y a encore ce dogme trop ancré du réduire le cholestérol pour réduire les maladies cardiovasculaires. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, et ça n'a souvent d'ailleurs rien à voir.
Bah, la manière dont ça m'a été expliqué, et qui, du coup, que j'aime bien, c'est de se dire qu'en fait, enfin, il faut pas se préoccuper du cholestérol, il faut vraiment s'occuper de son transporteur, en fait, le LDL, c'est ça. Je sais pas si c'est le bon terme, transporteur, mais enfin, c'est plutôt et c'est en fait l'oxydation du LDL ou de l'LDL, je sais pas. Enfin, c'est une lipoprotéine, donc de l'LDL. Mais en fait, c'est l'oxydation par le glucose qui est problématique et qui laisse en fait une sorte de déchet, si je dois simplifier.
Oui, alors l'oxydation par le glucose, pas forcément, enfin c'est pas forcément, enfin je pense que tu veux parler plus du phénomène de glycation plus que d'oxydation quand tu parles du glucose.
Ah oui, tout à fait. Bah pour moi, la glycation, c'est une oxydation, c'est une forme d'oxydation, non ?
Non, bah, tout à fait.
C'est ton domaine, je te laisse le choix des mots.
Pas de souci, même si effectivement la glycation, on est d'accord, peut aboutir in fine à un stress oxydant.
D'accord.
Mais le phénomène en tant que tel, au point de départ, c'est pas tout à fait pareil que l'oxydation.
Ouais.
Après, oui, alors ça c'est l'exemple du LDL oxydé. C'est un exemple, mais effectivement, mais si on va encore plus loin dans la physiopathologie, qu'on remonte encore plus en amont dans les causes, il faut s'interroger du pourquoi ce LDL est oxydé, et ça, effectivement, ça renvoie à plein d'autres causes possibles. À une hygiène de vie globale, souvent, donc, une insulinorésistance, souvent, donc, un stress oxydant parce que manque de fruits, légumes, d'antioxydants, etc., par manque d'activité physique. Donc, c'est encore, si on remonte encore plus au niveau à la source, et ben c'est toute cette hygiène de vie qu'il convient de regarder, et le LDL oxydé n'en est qu'une preuve, mais c'est encore une fois pas suffisant de s'arrêter que à ça. En fait, c'est toute la globalité de l'hygiène de vie, de tout qu'il faut regarder. Voilà.
Oui, et puis d'autant que notre prise de sang qui veut nous dire qu'on a potentiellement un LDL élevé ne nous dit pas forcément tout, puisque ouais. dans le test standard, alors j'ai plus du tout les noms en tête, hein, des différents tests, mais en gros dans le test standard qu'on pratique, en fait, on mesure le HDL, donc qui est une autre forme de lipoprotéine, et le cholestérol total, et on en déduit le LDL. Et dans le LDL, il y a plusieurs catégories, donc qui sont de différentes densités, et en fait, on les mesure pas spécifiquement dans le test standard. Et le truc, c'est que certains LDL, donc les plus grosses densités, c'est ça ? Ouais, les plus grosses densités. Ne sont pas problématiques, alors que les plus basses densités le sont, mais vu qu'on fait aucune différenciation, bah en fait, on n'a pas vraiment l'information. C'est-à-dire que si vous faites une prise de sang et que votre taux de LDL est élevé, bah vous n'avez pas toute l'information. Mais par contre, ça peut vouloir dire qu'il faut quand même regarder. C'est surtout ça. Enfin, la manière dont je l'avais compris, c'est que c'est plus important de savoir quel type de LDL on a que le LDL total, en fait.
Exactement, c'est ça. Sauf qu'encore une fois, si on parle par rapport aux prises de sang classiques, si on regarde bien finalement, c'est même pas cette information-là qu'on a, puisqu'en fait, on mesure quoi? On mesure le LDL cholestérol, on mesure pas le LDL tout court. Donc, ouais. En fait, on va mesurer le cholestérol qui est contenu dans le transporteur. Donc, en fait, on s'intéresse pas au transporteur que ça, on s'intéresse plus au transporté, quelque part, dans le transporteur. Comme si on comptait les passagers d'une voiture plutôt que de compter le nombre de voitures elles-mêmes. Mmh. Et c'est plus, pour le coup, ce nombre de voitures qui est important, donc c'est plus le nombre de particules qui est important et qui est qui a un impact dans les maladies cardiovasculaires qu'il conviendrait de compter. Donc il faudrait plutôt compter le nombre de LDL particules plutôt que de compter le LDL cholestérol. Donc ça peut se faire en pratique, mais c'est des méthodes un petit peu plus compliquées. Ça demande de faire ce qu'on appelle une électrophorèse des lipoprotéines, par exemple. C'est un peu plus compliqué, puis c'est coûteux, et donc ça se fait pas en routine. Mais après, il y a des points effectivement de l'apprécier de façon indirecte, ce nombre de particules LDL, tout simplement. Si on regarde le reste du bilan lipidique, on peut évaluer la qualité donc et la quantité aussi de CLDL par tout simplement le ratio des triglycérides sur le HDL cholestérol. Donc, quand ce ratio est trop élevé, effectivement, ça en dit long en général. Ça en dit long en général sur du coup la qualité et le nombre, parce que c'est lié hein, donc des particules LDL. Donc ces deux facteurs sont liés dans la mesure où plus les particules LDL seront petites et donc de nombreuses, plus elles seront donc de mauvaise qualité puisqu'elles seront plus sensibles à l'oxydation. Voilà, et on en revient à ce problème justement d'oxydation et tout ce qui peut en suivre.
Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Mais c'est un sujet en plus qui est complexe parce que, enfin, c'est toute une chaîne en fait qui va derrière. Hein. Donc en fait, juste avoir, enfin, je vois souvent que c'est des conversations que j'ai régulièrement avec des clients où on leur a recommandé de prendre des statines, alors parce qu'ils avaient un bilan cholestérol qui était considéré en tout cas comme mauvais, et il y avait eu finalement assez peu d'investigations au-delà de ça. C'est-à-dire que tu te dis, enfin, quand tu vois à quel point c'est un système complexe, tu te dis juste avec cette information, on peut pas forcément déterminer un traitement. Il y a pas eu de recherche supplémentaire, et ça me perturbe. Enfin, je me dis, si c'est quelque chose qui est effectivement à risque et qui a un vrai risque cardiovasculaire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas examiné plus loin? Parce que si le problème est autre, les statines vont rien faire en fait. Enfin, elles vont pas être efficaces en tout cas comme forme de traitement.
Exactement. Et encore, et quand tu dis peu d'investigation, c'est vraiment un euphémisme. En fait, il y a pas d'investigation du tout. C'est-à-dire que, hélas, on en est encore à une médecine où on va regarder quoi? On va regarder le bilan lipidique, on va regarder souvent le cholestérol. Enfin, quand je dis on, c'est pas bien sûr, c'est pas moi encore une fois, c'est souvent la médecine allopathique. Entre guillemets. Donc, on va regarder souvent le cholestérol total, voire le LDL, effectivement. Et quand ce chiffre va être élevé, bon, en fait, on s'arrête juste à un chiffre. Donc, en fait, les statines, j'ai toujours coutume à dire que les statines vont juste traiter un chiffre, c'est tout. Ça ne va pas traiter une maladie cardiovasculaire, ça va traiter un chiffre. Donc, effectivement, on va baisser, d'un point de vue quantitatif, ce cholestérol total et ce LDL, mais c'est tout. Et quand on connaît la complexité des maladies cardiovasculaires et de tout ce qu'il y a derrière, ça traite rien. Comment on peut croire qu'une molécule va traiter tout un métabolisme qui est malade? Et ce métabolisme est tout un enchevêtrement d'engrenages qui dépendent de plein de facteurs. Donc comment on peut croire qu'avec une molécule on va tout régler, un système qui est hyper complexe? Donc, c'est complètement illusoire. Il faut complètement revoir l'hygiène de vie, complètement revoir plein de choses et investiguer vraiment beaucoup plus par rapport à ça.
La notion en fait de revoir son hygiène de vie, je pense que c'est vraiment le plus important. Et c'est sûr que si on peut limiter en fait ces problèmes d'oxydation, en tout cas cette glycation déjà dans un premier temps, et puis juste l'oxydation en règle générale, c'est sûr que c'est plus intéressant. Mais d'ailleurs, tu m'as fait penser à un truc en parlant de ça tout à l'heure. C'est tu parlais d'antioxydants. Mais c'est vrai que avoir des antioxydants dans son alimentation, c'est intéressant. Mais est-ce que on peut tout simplement aussi limiter les choses à oxyder, parce que, enfin, ou les choses qui s'oxydent, est-ce que ça c'est pas aussi assez pertinent finalement? C'est-à-dire que oui, ok, avoir des antioxydants c'est bien, mais aussi ça peut être pertinent peut-être d'avoir tout simplement moins d'oxydation, non?
Oui, non, c'est très judicieux effectivement de le rappeler. Moi, j'ai parlé que des antioxydants. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle le stress oxydant, c'est en fait un déséquilibre, une question de déséquilibre entre d'un côté l'apport des antioxydants par l'alimentation et d'autre part par les sources justement d'oxydation qui sont liées donc à l'hygiène de vie notamment. Donc je peux penser à au tabagisme, à la sédentarité, à l'exposition à des polluants divers et variés. Et Dieu sait que dans notre société, bah, qu'on le veuille ou non, on est exposé à toute une pléthore donc, de polluants. Donc ça va passer effectivement. La gestion du stress oxydant va passer en grande partie par limiter ses sources d'oxydants. Et donc voilà, comme je l'ai dit, bah, première chose, c'est que si on fume, bah, c'est d'arrêter de fumer, faire de l'activité physique, parce que faire de l'activité physique, bah, permet aussi donc de stimuler les défenses antioxydantes, à manger le plus éventuellement bio possible, parce qu'on va limiter donc les polluants qui sont source aussi de stress oxydant, toutes ces choses là donc oui, effectivement, les ultraviolets aussi dont on parlait tout à l'heure, les ultraviolets, quand on se protège pas suffisamment, mais c'est source de stress oxydant, par exemple. L'inflammation chronique, c'est source de stress oxydant. Donc, toutes ces choses-là, il faut les limiter.
Voilà. Oui, c'est ça. Augmenter le niveau d'antioxydants, c'est pas forcément la solution. En tout cas, c'est bien d'y avoir accès, mais c'est pas parce que je fume un paquet par jour, je vais boire une bouteille de vin parce qu'elle est riche en antioxydants, quoi. C'est pas comme ça que ça marche.
Oui, tout à fait.
Ce serait drôle.
Vraiment, les deux.
Ce serait quand même très, très drôle.
Voilà, après ça expose à d'autres problèmes, hein. Une bouteille de vin par jour.
C'est ça. Mais voilà, on peut pas aborder ça sous le ratio de, enfin, c'est pas du plus et du moins qui fait du neutre, quoi. Enfin, il faut aussi. Enfin, on a beaucoup de processus en fait, et ça c'est un truc que je trouve absolument magnifique et impressionnant avec le corps, c'est cette capacité de nettoyage en fait, parce que, enfin. Nous, on n'est pas, enfin, comme espèce, hein, on n'est pas forcément très très fut-fut, hein, on a tendance à apprécier des trucs qui nous font pas que du bien, et notre corps a une capacité à les traiter, en fait, je vais peut-être pas utiliser le bon terme, mais à se détoxifier, qui est finalement assez impressionnante, hein. Et effectivement, les antioxydants ont un rôle dans ce processus-là. Hein, encore une fois, ouais, la notion de toxicité n'est peut-être pas la bonne, mais le fait de faire le ménage, en fait. Hein. Mais effectivement, si on pèse trop, enfin si on charge trop la balance, ça marche pas, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple effectivement de faire attention à ce qu'on ingère. Que d'essayer de compenser ça par plus ou moins d'autres choses.
Voilà, exactement.
Alors, on a vachement parlé donc de différents micronutriments depuis le début. Moi, ma question, ce serait dans le contexte d'une activité sportive, on va dire régulière à intense. D'accord. On parle des gens qui du coup se qualifieraient clairement de sportifs. Leurs besoins vont évoluer. En tout cas, c'est souvent présenté comme ça. Sur les différents sujets, enfin les différents micronutriments dont on a parlé depuis le début, est-ce qu'il y en a qui seraient particulièrement à surveiller, parce que ensuite peut-être qu'on change pas trop nos habitudes, mais est-ce qu'il y en a qui seraient particulièrement à surveiller lorsqu'on a une activité sportive, on va dire intense?
Alors oui, parce que effectivement les besoins de base sont augmentés, donc déjà tous les micronutriments seront en besoin augmentés, donc il faut d'autant plus faire attention à son alimentation et faire en sorte qu'elle couvre le plus possible. Donc ça veut dire que voilà, c'est souvent, moi j'entends souvent dire des gens, du simple fait qu'ils soient sportifs, en fait, du coup ils peuvent se permettre du coup de manger des aliments qui sont de mauvaise qualité, en se disant tout simplement je suis sportif donc je vais le brûler, mais c'est plus compliqué que ça, dans la mesure où pour bien fonctionner, le corps il a besoin de tous ces micronutriments, et qui plus est quand on a une activité physique régulière et intense, où il faut que ces micronutriments soient apportés en quantité et du coup régulièrement, tous les jours. Donc c'est de ce fait, c'est pas une excuse pour avoir donc une alimentation de mauvaise qualité, en se disant simplement je vais brûler les calories. Ça renvoie encore une fois une vision simplement des calories plutôt que des micronutriments. Donc ça, voilà, il faut faire attention à ça d'une façon globale. Après, il y a peut-être effectivement certains micronutriments clés, je pense la vitamine D, encore une fois, qui est primordiale, qui fait d'autant plus l'objet de carences chez le sportif. Je pense au zinc aussi, le zinc qui est important donc dans la construction musculaire, dans les hormones. Je pense au magnésium aussi beaucoup, puisqu'on en perd aussi beaucoup par la sueur, par des choses comme ça. Le fer, il faut se méfier aussi, alors surtout chez les femmes, parce que les femmes, déjà, en tant que telles, elles sont plus sujettes à faire des carences en fer, bien que chez l'homme, ça puisse quand même arriver des fois dans certains cas, surtout chez les joggeurs en général.
Ouais.
Voilà, donc c'est à ça qu'il faut faire attention, notamment.
Il y a un micronutriment dont j'entends assez peu parler, mais et du coup, ben, indirectement, je me suis peut-être moins penché dessus. Alors, est-ce que je traduis ça correctement? Parce que moi, j'ai ça en anglais en tête, mais le folate, c'est ça? Ou l'acide folique?
Ouais.
Enfin, c'est deux choses différentes, justement. Ça, je sais. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Parce que je sais que souvent, c'est des sujets qui viennent aussi dans la notion de l'effort. Enfin, chez les sportifs, en tout cas.
Alors, déjà, effectivement, tu as parlé des folates et de l'acide folique. Alors, les folates, on dit les folates parce que c'est les au général. Hein. Ouais. C'est les folates, on regroupe plusieurs molécules, dont l'acide folique et une molécule donc parmi cette famille des folates.
Ouais.
Et donc cette famille des folates, c'est ce qu'on regroupe vulgairement sous le nom de vitamine B9.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, du coup ça répond. Je sais plus ça répond à ta question ou pas. Je sais plus que...
bah, ça du coup. Bah le, en fait, quel est le rôle des folates dans notre corps déjà? Ça fait quoi? Ça sert à quoi? Du coup, pourquoi est-ce que c'est pertinent, du coup? Enfin, ça répondra à cette partie-là. Et ensuite, est-ce que tu peux, du coup, faire la différenciation entre folate et acide folique?
Oui, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, donc, l'acide folique, c'est une molécule parmi la grande famille des folates, hein, donc, voilà. Mm-hmm. À quoi ça sert dans l'organisme? Donc, bien sûr, à plusieurs choses, comme d'habitude. Les folates, donc, que je vais appeler sous forme vulgaire, hein, vitamine B9, mm-hmm. En fait, agit en duo avec la vitamine B12. Donc, les deux vont jamais ensemble. Mm-hmm. Donc ça va avoir, on va dire, les mêmes rôles, si on veut bien, que la vitamine B12. Donc, tout ce qui est renouvellement des cellules, un renouvellement rapide, hein, donc on a parlé tout à l'heure des cellules sanguines, mm-hmm. et ça peut être toutes les cellules d'une façon générale, hein, qui se renouvellent rapidement, hein, donc même les cellules intestinales, par exemple. Comme ça fonctionne de pair avec la vitamine B12, bah, ça va aussi agir dans tout ce qui est phénomène de méthylation, donc de régulation de l'épigénétique notamment. Et donc spécifiquement, par exemple, pour la femme enceinte, la B9, donc ça permet, enfin en tout cas quand on est en carence de B9, c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle les femmes enceintes sont complémentées en acide folique, ça permet donc de prévenir ce qu'on appelle le spina bifida, qui est donc un risque de malformation finalement de malformation si on veut neurologique du fœtus, donc avec des conséquences qui sont plus ou moins graves.
Parce que ça, enfin je me souviens que ça a un rôle en fait dans l'activation des gènes, c'est ça?
Par le biais effectivement de la méthylation, donc en coopération avec la vitamine B12, effectivement, ça va avoir un rôle sur la méthylation des gènes. Et quand on méthyle un gène, en fait, on c'est comme si on éteignait l'interrupteur, on éteint ce gène, donc on empêche qu'il s'exprime. Donc effectivement, ça joue un rôle dans la régulation de l'expression des gènes.
Ouais. Ouais. Je me suis lancé là-dessus d'ailleurs. C'est vrai que, enfin, si pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est que les folates, c'est des choses qu'on trouve on en trouve beaucoup dans notre alimentation, et il y a plein de sources, très riches. Je veux dire, on va aussi bien en trouver dans les origines végétales que dans les origines animales, c'est-à-dire que l'avocat, les épinards, les lentilles aussi, bah, on parlait des lentilles tout à l'heure, les choux de Bruxelles, mais après, on en trouve aussi dans le bœuf, dans la dinde, mais également dans le poulet, par exemple. Enfin, on en trouve dans beaucoup, beaucoup de sources alimentaires.
C'est ça. Donc, effectivement, pour résumer, c'est beaucoup les légumes à feuilles vertes foncées et certaines sources animales aussi, et dont une source animale intéressante en vitamine B9, c'est le foie. Tous les foies, de volaille, foie de veau, enfin, ce que vous voulez.
Ouais. Donc voilà, c'est aussi, ça peut être... c'est très facile finalement à intégrer dans une alimentation parce qu'il y a beaucoup de sources en fait qui sont de toute manière intéressantes et d'un point de vue cuisine très sympa, parce que je veux dire, si on veut faire le plein, des petits choux de Bruxelles, des petits choux de Bruxelles au four là, c'est pas mal non plus, hein. c'est pas le seuil le plus élevé, mais c'est pas mal.
C'est super bon.
Mais et donc du coup l'acide folique, ça je l'ai déjà vu dans des compléments alimentaires, mais c'est autre chose, c'est ça? C'est pas tout à fait la même chose.
En fait, c'est une molécule qui fait partie de la famille des folates. Donc c'est un folate particulier.
Ouais, c'en est qu'un seul, ok.
Voilà. Voilà. Donc la citrullique, c'est ce qu'on donne en général sous forme donc soit de complément alimentaire, soit dans les médicaments, parce que c'est un médicament hein, du coup qui a une indication bah, justement pour notamment la femme enceinte en prévention donc du spina bifida ou chez les personnes qui peuvent être anémiées par anémie par carence en B9. Voilà.
Ouais, ok.
La citrullique, c'est voilà donc va rejoindre finalement la voie du métabolisme des folates et jouer son rôle tel que je l'ai dit en coopération avec la B12.
Super. Bon, après, la liste des micronutriments, elle est incroyablement longue, hein, bien sûr. Hein, donc, on peut. Enfin, je pense que le plus. Enfin, là, on a couvert pas mal. Mais il y en a tellement, en fait, qu'il faudrait regarder en détail. C'est vrai que c'est pas simple. Enfin, moi, je sais que j'essaye de faire attention à mon alimentation, mais en fait, à part avoir une alimentation assez variée. Et tourner régulièrement, pas tout le temps manger les mêmes choses. J'ai pas vraiment de stratégie particulière pour m'assurer d'avoir un bon niveau de calcium, un bon niveau de magnésium, un bon niveau de zinc, un bon niveau de folate. Enfin, ça, c'est un calcul qui est juste trop compliqué, en fait. Hein.
Ça. On peut pas calculer, c'est trop complexe. On peut pas. La biologie, c'est pas des maths, c'est plus complexe que ça. Et c'est plus complexe que simplement. Je calcule les entrées et je regarde. Non, c'est plus complexe que ça. Parce qu'en fait, ce qu'on ingère, on ne sait pas du tout le rendement d'absorption. On ne sait pas du tout ce qu'on va absorber. Donc, quand bien même on ferait des calculs d'apothicaire, et c'est pas un mauvais jeu de mots parce que j'étais ancien pharmacien. Donc voilà, mais c'est pas parce qu'on fait ces calculs-là qu'on saura forcément ce qu'on va réellement absorber, puisqu'il y a tout un tas d'interactions déjà liées à l'aliment lui-même et liées au mélange aussi des aliments entre eux. Ensuite, il y a des interactions qui sont liées à son tube digestif, à la façon dont on a mâché, à l'état de stress dans lequel on est, qui fait qu'on va plus ou moins absorber les micronutriments. Donc en fait, on a beau savoir en théorie combien X grammes de microgrammes de tel ou tel micronutriment sur le papier qu'on va ingérer. On ne saura pas ce qu'on va absorber. Et en plus de ça, il y a déjà un biais à la base, c'est quand on ingère certains légumes et qu'on regarde sur les tables nutritionnelles en regardant ben voilà tel aliment, tel légume a X milligrammes de tel minéral, c'est ultra théorique puisqu'en fait ça dépend dans quelle terre il a poussé, ça dépend dans quelles conditions, est-ce qu'il a poussé en serre, est-ce qu'il a poussé au soleil, est-ce qu'on lui a laissé le temps d'arriver à maturité. Donc finalement, ces tables nutritionnelles, elles sont extrêmement limitées en termes d'utilité. Parce que c'est beaucoup trop théorique. Donc il y a tellement de facteurs, du coup, par tout ce que j'ai expliqué, qui fait qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on ingère en quantité.
Ben c'est un super commentaire parce qu'en fait c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir adresser sur le podcast. Hein. C'est par exemple selon tu prends deux tomates, ta tomate de supermarché ou de grande distribution, on va dire tomate de grande distribution versus une tomate variété paysanne. Je pense aux tomates parce que là, enfin, je suis dans le Var et par ici, bah t'as des variétés paysannes qui sont assez impressionnantes. Hein. Et donc par exemple la cœur de bœuf qu'on connaît aujourd'hui dans la grande distribution versus la tomate cœur de bœuf que j'ai connue gamin qui était vraiment enfin elles se ressemblent pas en fait déjà on n'a pas l'impression que c'est le même légume donc on peut pas trop les comparer et surtout ce qui est intéressant c'est que les micronutriments dans ces variétés paysannes sont beaucoup plus riches. Donc tu peux pas comparer si tu mets sur un comparateur en ligne les micronutriments présents dans une tomate, bah, du coup il t'affiche lequel? Il t'affiche celle du supermarché ou celle de la variété paysanne? Sachant que la variété paysanne n'est pas au catalogue des semences autorisées en France, par exemple, bah, à mon avis c'est plutôt celle du supermarché qui vont être comme référence. Mais bon, en tout cas, ouais, ce truc de enfin, l'origine effectivement de ton aliment va avoir un impact assez important. Par contre, ce que je trouve vachement intéressant pour on va dire le commun des mortels, nous autres, dans la micronutrition et le fait de comprendre en fait le rôle de ces micronutriments, c'est aussi d'essayer de comprendre les sensations qui peuvent y être associées. Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'anémie. L'anémie, ça peut se sentir, par exemple, par des grandes fatigues, ça peut dans l'effort. Et lorsqu'on va en fait ressentir ce genre de choses, avoir une idée des potentielles pistes, c'est-à-dire est-ce que j'ai juste besoin de me laisser une journée parce que en fait j'avais fait un peu trop de sport la veille, donc j'étais un peu fatigué ou j'ai pas assez dormi, ou est-ce que en fait cette fatigue elle est systématique dès lors que je commence à avoir un effort un petit peu prolongé, peut-être. Et à ce moment-là, toi, quand tu t'auto-analyses, tu te dis peut-être. Peut-être que je manque de quelque chose. Et donc tu vas commencer à faire plus attention à cette sensation. Tu vas essayer de la comprendre et tu vas te dire, bah peut-être que je suis un peu, enfin peut-être que je manque actuellement de fer. Et donc tu te dis bon ok, bah dans ce cas-là, je vais m'assurer que sur les quelques jours qui viennent, j'en ai un peu plus dans mon alimentation et je vais voir si ça corrige. En fait, c'est l'auto-expérimentation, enfin dans la cuisine quoi, rien de plus compliqué que ça. Mais comprendre les sensations qui peuvent être liées à une carence, parce que mine de rien, on est quand même assez sensible à certaines choses. Peut-être certaines sont peut-être plus évidentes que d'autres. Mais pouvoir comprendre ça, en fait, ça peut vraiment nous guider en fait dans notre démarche santé personnelle.
Oui, bien sûr. Après, je compléterai en disant que bah, l'un des meilleurs moyens de vérifier ce genre de choses, mais c'est tout simplement, moi je m'y base beaucoup, c'est de bah, passer par la biologie, donc se faire une simple prise de sang. Et pour l'exemple du fer dont tu parlais, bah, c'est extrêmement simple. On peut mesurer le fer, ça se fait d'ailleurs assez facilement, enfin, en routine, ça se fait assez souvent. Alors, on mesure un taux de fer, on regarde, on fait une numération de formule sanguine, est-ce qu'on manque d'hémoglobine? Et puis on corrige, voilà, si on corrige. C'est pour ça que la biologie, c'est un super outil. On peut mesurer aussi tout un tas d'autres micronutriments qui permettent justement de dire quel est, de façon réelle, le statut en micronutriments. Voilà, c'est beaucoup plus fiable ça que de regarder en amont ce qu'on ingère, quoi, finalement.
Oui, bien sûr. Mais l'avantage, en tout cas, c'est que parfois, on peut savoir en fait quoi surveiller,
Oui.
ne serait-ce que sur la base de nos sensations.
Oui.
Après, oui, effectivement, rien ne sera plus précis que le bilan sanguin, en tout cas. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que, enfin, nous, on peut, d'un point de vue très personnel, tu as ce truc où tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Et le fait d'y être sensible et d'avoir une idée de ce qui pourrait ne pas aller, certes, ça peut déjà vachement bien te renseigner lorsque tu vas voir ton médecin pour lui demander potentiellement du coup une prise de sang. Ça peut aussi être de lorsque tu as identifié une problématique, par exemple, donc, je reste sur le même exemple, hein, histoire de pas, voilà. Mais tu sais que tu as eu des problèmes de carence en fer par le passé. Ça a été effectivement vérifié par une prise de sang. Bah tu sais que, enfin, tu as compris qu'en fait cette sensation que tu avais, bah c'est celle-là, c'est ce sentiment-là précis. Et donc effectivement, si ça revient, bah t'as pas forcément toujours besoin de retourner faire une prise de sang. Ah bah visiblement j'ai encore glissé. Bah je vais remettre mon alimentation en ligne pour cet objectif-là. Et effectivement, là, si cette sensation persiste, ah bah c'est peut-être pas ça. Bon, on va aller voir, c'est pas autre chose. Mais on apprend des choses de ça, c'est-à-dire qu'en fait ces métriques. C'est cette information qui est, elle, du coup, très objective, va nous permettre, en fait, de développer, de mieux comprendre ce qu'on ressent aussi. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Très
Ouais, tout à fait.
éducatif, en tout cas.
C'est ça. Ça. Après, dans le cas précis de la fatigue, d'une façon générale, je voudrais quand même juste compléter en disant que parce que tu as pris l'exemple d'une fatigue, enfin voilà, la fatigue peut-être, j'imagine, et sans doute, sans aucun doute, le symptôme le moins spécifique qui existe. C'est-à-dire qu'il
C'est
y a
clair.
tellement de Il y a tellement de causes possibles que pour la fatigue que, et souvent, je voulais rebondir là-dessus parce que souvent le tort, et moi je l'ai vu en pharmacie, c'est que souvent le premier réflexe des gens, c'est qu'ils se disent, bah, je suis fatigué, je vais prendre des vitamines. Et je veux dire, il y a tellement d'autres causes possibles et la probabilité est tellement faible qu'il y ait une amélioration parce qu'on cible pas finalement la demande et la cause de la fatigue. Donc, finalement, il faut plus creuser sous des, enfin, plus spécifiquement que simplement de façon générale dire je vais prendre des vitamines. Et d'ailleurs, souvent, enfin, il n'y a pas forcément d'efficacité parce que la cause ne vient pas de là. Donc, oui, il faut savoir s'écouter effectivement, mais aller plus loin aussi dans la démarche des fois pour investiguer, mesurer certains paramètres, quoi.
Mais c'est ça, il faut être sensible au message que nous fournit notre corps et savoir que bah, dès qu'il y a un truc qui. Enfin, comme ça, au moins, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'on sait ce que c'est? Non. Mais ça, en tout cas, ça peut être très à l'écoute, ça nous permet de savoir si bah, il est temps justement d'être suivi, mais en amont en fait d'une pathologie. C'est ça aussi. Une certaine. Être à l'écoute de soi-même, en fait, c'est éviter d'en arriver au stade où on a besoin en fait d'une intervention plus lourde. C'est surtout ça. Hein. C'est notre premier rempart. Merci beaucoup, Edouard, d'être revenu sur l'émission. Encore une fois, moi, j'ai appris plein de trucs. Et en plus, bon, voilà, j'adore parler de ce genre de sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te trouver et te suivre, s'il te plaît?
Alors, on peut me suivre donc sur ma, je suis surtout actif hein, sur ma page Facebook. Hein, donc, vous tapez donc docteur, enfin DR, le DR de docteur, hein, parce que je suis docteur en pharmacie du coup. Donc DR Edouard Courreau tiré nutrition, micronutrition et santé. Par exemple, peut me trouver sur Instagram aussi, hein, sous le pseudo donc docteur, donc DR avec le tiré du 8, Edouard tiré du 8 Kuro, par exemple, où je donne des idées de recettes, par exemple, pour avoir une hygiène de vie saine, mais pas que ça. Voilà, donc on peut me trouver. J'ai aussi une chaîne, accessoirement une chaîne YouTube de vidéos qui est en développement, mais qui est pas primordiale, on va dire, en termes de... C'est pas là où je suis plus actif.
Ouais. Bon, de toute façon, je mettrai tout ça en lien dans l'émission. Merci à toi, Edouard.
Merci à toi.
Vous aussi, prêtez le serment d'hypocrite en nous retrouvant sur la page Facebook de l'émission. Et n'hésitez pas à nous poser des questions de santé dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcasts. Et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À bientôt.